Appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Oui, chers auditeurs, merci d'avance. Bienvenue dans Restons Courtois. Donc, si vous nous rejoignez en route, l'émission de débat de Radio Courtoisie avec Le Monde Moderne, Boulevard Voltaire, L'Incorrecté, Valeurs Actuelles. Merci si vous nous soutenez. Vous êtes 17 000 à le faire, c'est beaucoup. Hélas, ce n'est pas assez. Il nous faudrait être 20 000 pour être vraiment à l'abri et pouvoir développer Radio Courtoisie autant que nécessaire. On va tout de même remercier un couple d'auditeurs de Montesson dans les Yvelines, qui envoie 50 euros, et qui nous dit une petite participation pour votre radio, que nous apprécions beaucoup. Encore un grand merci. Merci à vous, madame et monsieur. Une auditrice de Saint-Comtès dans le Calvados envoie 150 euros. Que cette participation contribue à la longévité de Radio Courtoisie, madame de compagnie, c'est joliment dit. Merci, chère madame. Un grand merci, nous dit-elle, pour les excellentes émissions dont vos directeurs d'émission nous font profiter. C'est toujours un réel plaisir de les écouter, ainsi que vos intervenants qui se respectent dans les débats d'idées. Eh bien, nous essayons, effectivement. Continuez ainsi et longue vie à Radio Courtoisie. Ben, longue vie à vous, chère madame. Et une auditrice de Guidel dans le Morbihan envoie 20 euros et nous dit merci pour toutes ces belles émissions qui m'apportent beaucoup. Eh bien, chère madame, merci à vous. Parce que vous aussi, vous nous apportez beaucoup, vous nous aidez à vivre, parce que c'est grâce aux auditeurs engagés, aux auditeurs militants, que nous parvenons à réunir le petit million et demi d'euros qu'il nous faut pour faire vivre Radio Courtoisie, entre les collaborateurs, les frais et notamment les antennes, qui nous coûtent assez cher. Et puis alors, je voudrais remercier aussi cet auditeur qui m'envoie une magnifique carte du monde, à vrai dire, avec ses pérégrinations entre Brest, La Réunion et le Crozet. Et c'est un auditeur absolument sympathique qui m'envoie très régulièrement des cartes postales de tous les endroits où il va dans le monde. Et voilà, bah je tiens à le remercier à l'antenne, c'est passionnant, et je garde ces cartes postales avec soin. Voilà, donc un grand merci, cher monsieur. Je ne donne pas votre nom, mais voilà, sachez que je vous remercie chaleureusement. Alors, on passe à la suite, parce qu'il nous faut donc évoquer maintenant notre rendez-vous de la réinformation. Nous avons eu donc... Alors, Charles Lalonde, je n'ai toujours pas le résultat. On ne sait toujours pas si c'est voté, pas voté. Donc, si ça vous va, on parle rapidement des fuites de données de l'Agence nationale des titres sécurisés. Et puis, éventuellement, après, on parlera de Lalonde, si jamais on a un peu de neuf ou pas. Donc, je vous le disais en introduction, le 15 avril... on a détecté une fuite massive de données de cette Agence nationale des titres sécurisés. Donc, c'est là où on vous délivre, vous faites vos demandes pour avoir le renouvellement d'un permis, d'une carte d'identité, des choses comme ça. Donc, c'est tous les Français.
Carte grise.
Tout. Potentiellement, tous les Français sont concernés, tous les Français majeurs, peut-être même mineurs d'ailleurs, puisque les mineurs peuvent aussi avoir un passeport. Donc, et là, on parle de 11 700 000. Compte piraté. C'est démentiel. Alors, c'est un sujet extrêmement important, puisque la question maintenant, c'est que va-t-il se passer avec ces données? Alors, Jean-Yves Le Gallou, c'est un sujet qui vous intéressait beaucoup. Qu'avez-vous à nous dire
là-dessus? Moi, je l'ai vu traité dans les années où j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur, où la sécurisation des titres était un grand sujet. Il y a eu une vague dans les années... Sarkozy, on va dire, et début Hollande, qui consistait à penser qu'on pouvait traiter les problèmes de sécurité ou les problèmes d'immigration par la technologie. Et qu'en mettant en place des titres sécurisés, eh bien, on arriverait à améliorer la sécurité et à mieux contrôler l'immigration. En fait, c'est évidemment une illusion. Alors d'abord, on s'aperçoit que les titres ne sont pas sécurisés, mais indépendamment du fait que les titres ne sont pas sécurisés, la manière dont les titres sont établis ne sont pas sécurisés. Par exemple, dans le domaine des certificats d'immatriculation, il y a une très grande décentralisation auprès d'acteurs privés qui ne sont pas tous fiables, et donc il y a la possibilité pour un certain nombre de gens d'échapper en fait au paiement des contraventions ou aux poursuites parce qu'il n'y a pas la bonne adresse sur le document administratif. Et puis, pour ce qui est plus grave, pour les titres d'identité, il y en a qui sont établis sur la base de papiers qui ne sont pas sécurisés ni même vérifiés. Et il faut savoir que dans les préfectures, quand il y a des contrôles sur la sécurisation de la délivrance des titres, ceux qui sont trop pointilleux se font assez vite accuser de racisme. Par conséquent, ça n'est pas très motivant. On peut aussi se poser la question du rôle des mairies, quand on voit comment ont basculé un certain nombre de mairies à l'occasion de ces dernières élections municipales, et c'est quand même le premier échelon de fabrication du des titre sécurisé, ouais. De prise des données, de prise de l'empreinte, de prise de la photo. Et donc, nous avons une Agence nationale des titres sécurisés qui manifestement ne sécurise pas les données qu'elle a, mais ne sécurise pas non plus les données qu'elle rassemble, ou en tout cas, elle ne rassemble pas uniquement des données préalablement sécurisées. Voilà. Mais c'est le grand capharnaüm étatique.
Oui. Xavier Van Leerde ou Alexis Poulain, une réaction à ce piratage de masse des données des Français? Alexis?
Alexis, oui, c'est quotidien, c'est plusieurs bases de données, certaines stratégiques, c'est incroyable. Moi, ce qui me choque, c'est l'absence de réaction de l'État, tout simplement, qui a décidé de créer un haut conseil d'observation, un observatoire, je ne sais pas quoi, enfin un truc qui ne sert à rien, et qui se défausse totalement, sachant que, en réalité, si on suit le RGPD, ben on pourrait porter plainte contre l'État français qui est incapable d'assurer la sécurité des données des Français. Donc je pense qu'il faudrait lancer une grande campagne, en fait, pour faire une class action contre l'État français, qui, en plus, non seulement fait payer ces différentes institutions, c'est-à-dire nous, des amendes parce que les données ont fuité, mais c'est pas aux institutions qu'il faudrait demander de payer. Il faudrait simplement demander une année blanche sans impôts ou je sais pas quoi, mais dire c'est pas à nous de payer. Là, l'État nous fait doublement payer. À la fois nos données s'exfiltrent, et en plus, il y a des amendes faites par l'État sur ces trucs, donc c'est du Monopoly. Hein. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas là aujourd'hui, je l'ai plusieurs fois appelé de mes voeux dans mes différents directs, une entreprise de plusieurs citoyens pour dire nous devons maintenant porter plainte contre l'État français, parce que c'est l'État français qui se défausse en fait sur des organismes en disant c'est pas nous, c'est eux. C'est faux. Derrière, il y a une volonté claire de se défausser, parce que si jamais on arrivait à faire monter cette class action sur le RGPD, bah, ça coûterait très cher à l'État français, en l'occurrence.
Absolument. Xavier Van Leerde, je reviendrai un peu sur ce que vient de dire Alexis Poulain, mais allez-y.
Ce qui est assez effarant quand même, c'est que tout en étant incapable de protéger ses données, l'État est dans une sorte de course en avant, de constitution, de rassemblement de plus en plus de données, à la fois personnelles. Ce sera le cas lorsque il faudra décliner son identité pour accéder aux réseaux sociaux, mais aussi des entreprises. Voilà, on le sait, je crois qu'à partir de septembre, les entreprises d'une certaine taille, en tout cas, devront déposer désormais leurs factures électroniques sur un serveur étatique, donnant lieu en quelque sorte à une sorte de tableau en temps réel de l'ensemble de leurs liens avec des partenaires, parce que c'est ça qui révèle les factures. Et donc, en fait, ce sont des informations extrêmement stratégiques. À travers les factures d'une entreprise, on peut savoir avec qui elle contracte, pour quel type de service, et donc, dans une logique d'espionnage économique, avoir accès à des données telles que celles-là, ce serait absolument ravageur. Et donc, on a cet État qui, tranquillement, met en place un système tel que celui-là, sans être capable, en tout cas sans démontrer qu'il est capable, c'est le moins qu'on puisse dire, de protéger ses données. Ça fait réellement froid dans le dos. Enfin, moi, dans une précédente vie, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle l'intelligence économique, c'est-à-dire, en gros, le renseignement appliqué au monde des affaires. Ce serait réellement catastrophique qu'on livre en un seul lieu des informations aussi stratégiques que celles-là, puisqu'il ne s'agit pas seulement des montants, hein, il s'agit des factures elles-mêmes, avec donc description de ce qui a été contracté.
Absolument. Alors, je rebondis dans une seconde sur ce que vous venez de dire, chers amis, mais j'annonce maintenant, c'est une exclusivité de Radio Courtoisie, que le rapport à l'oncle a été approuvé, apparemment, d'après ce qu'on m'écrit. 12 voix contre 10, donc a priori c'est vrai. J'espère que c'est vrai et qu'on m'envoie pas une bêtise, a priori c'est vrai. Et voilà, donc ils étaient 30, ça veut dire que les autres se sont abstenus courageusement, mais c'est déjà ça. Alors, je reviens à cette affaire, on parle de Halonque dans une seconde, 10 minutes, enfin 10 secondes, pardon, une minute. Cette affaire des fraudes, enfin des piratages de données, ça doit inciter vraiment les auditeurs de Radio Courtoisie à faire extrêmement attention, parce que ça va déboucher de manière concrète sur des campagnes de hameçonnage infiniment mieux fait et crédible que ce qu'on peut recevoir habituellement. C'est-à-dire que là, des agences type EDF ou je ne sais quoi, des opérateurs de téléphonie, etc., vont être capables de faire semblant, enfin ce seront des faux, ce seront des pirates qui se feront passer pour votre agence de communication, de téléphonie ou d'EDF, et de vous demander des données avec une crédibilité extrêmement renforcée. Ça pourra déboucher sur de fausses demandes de renouvellement de titres faits en votre nom, mais par un escroc, par un voyou qui fait profit du trafic de documents. Ça va donner lieu à des usurpations de services publics, c'est-à-dire potentiellement des gens qui vont se faire des quittes acédiques ou des demandes de remboursements médicaux à votre nom. Et si un jour c'est découvert, ça peut vous retomber dessus. Et là, je reviens à ce que disait Alexis Poulain. Non seulement c'est l'État, enfin, c'est cette agence qui laisse filer nos données, mais en plus, c'est nous qui serons responsables si demain, il y a des fraudes qui sont faites avec ces données qui ont été volées. Ouais. C'est hallucinant. Et on va avoir des millions, pas des dizaines, des millions de risques de fraude documentaire, de fraude, ce qu'on appelle la relation client. Et puis, évidemment, ça va aussi donner lieu, on parlait de renseignement avec Xavier Van Leerde, les pirates informatiques font aussi du renseignement et ils peuvent faire des recoupements avec d'autres fuites qui sont déjà disponibles et qui vont nous mettre réellement en danger. Donc là, s'il y a un conseil à donner, c'est de redoubler de vigilance avec ce qui va nous être envoyé comme demande de toute forme d'administration dans les mois à venir. Voilà. Un mot, Charles-Henri Deslois, sur cette fuite.
Oui, c'est là où je suis très heureux d'être le dernier des Mohicans, parce que je fais tout sur papier. Je refuse les administrations digitalisées. Même les impôts. Même la sécurité sociale, je fais tout sur papier.
Mais quand vous avez besoin d'une carte d'identité ou d'un passeport, vous passez forcément par une administration digitalisée.
Non, je vais voir. Non, vous pouvez aller encore dans votre mairie, remplir un papier. C'est eux qui font le boulot.
D'accord.
Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne donne aucun renseignement moi-même sur un ordinateur que je n'ai pas d'ailleurs. Donc, je ne sais pas comment ils feront. Mais j'ai déjà été victime, c'est sûr, d'hameçonnage, comme on dit.
Oui,
ne serait-ce qu'au téléphone maintenant.
Ne serait-ce que par téléphone, oui.
Ça, d'accord.
Alors, il nous reste quelques minutes pour parler du rapport de Charles Halonque, qui est un gros sujet. Alors, j'espère vraiment que je ne vous dis pas de bêtises, mais a priori...
C'est sûr.
Bon. C'est une excellente nouvelle. Donc, le rapport du député UDR Charles Halonque sur... l'audiovisuel public est donc validé, voté, il sera publié. C'est une grande, belle victoire. Alors, honnêtement, je m'attendais plutôt à faire une émission sur son interdiction.
Ça vous déçoit. C'est vrai qu'il n'y a plus qu'à se réjouir.
Je n'ai plus rien à dire.
Oui, on ne fait pas une bonne littérature avec des bons sentiments. Ouais.
Alexis Poulain, est-ce que ça vous inspire quelque chose?
Oui, je pense que là, les députés ont été assez malins pour ne pas provoquer l'effet Streisand, vous savez, c'est-à-dire oui. On interdit quelque chose et puis ça
on
prend
attire
une proportion folle. Donc je pense que de manière très stratégique, ils ont choisi de le publier, sans quoi ça aurait été Hernani, quoi. On serait rentré dans un truc où là, il fallait vraiment mettre les mains dans le cambouis. Ce qui va permettre de faire comme avec les autres rapports parlementaires, c'est-à-dire on en parle pendant quelques semaines, puis on le met sur une étagère et on passe à autre chose. Voilà.
Alors ça, question importante, est-ce que, messieurs, est-ce qu'à votre avis, on peut le mettre sur une étagère et passer à autre chose?
Non, parce que on peut en parler comme si justement, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit s'il avait été mis sous le boisseau?
Oui, mais maintenant qu'il a publié,
c'est ça.
Non, mais... que va-t-il se passer?
Rien, justement. Le problème, c'est qu'il ne se passe pas rien. Mais il faut le faire vivre.
Il y a une masse d'informations.
Il y a quand même, oui.
Indépendamment des propositions éventuelles qui ont sans doute peu de chances de déboucher, il y a une masse d'informations qui va pouvoir circuler librement. Et ça, c'est un élément extrêmement positif. Ouais. Contrairement à ce qui s'était passé avec le rapport sur les syndicats, qui il y a 12 ans avait été détruit et qui avait fait disparaître toute la masse d'informations disponibles sur les 10 syndicats qui ne vivent que de prébendes publiques.
Oui. Vous remarquerez que là, il n'y a pas de fuite. Non. Comme c'est des rapports...
Je pense qu'il y aura des suites, parmi d'autres. Enfin, le rapport a soulevé aussi un certain nombre de pratiques qui, à mon avis, peuvent donner matière à poursuite. Et donc, je pense qu'il dans les maintenant que c'est publié et qu'on peut donc reprendre ces informations, il va falloir qu'un certain nombre de médias, dont le nôtre, exige des suites à ce qui a été révélé et qu'on ne le laisse pas effectivement prendre la poussière dans un coin, mais je doute que ce soit le cas, et donc pour nos auditeurs il sera consultable sur le site de l'Assemblée nationale à compter de la semaine prochaine.
Voilà. Ah bah ça va être excellent. Alors on a un auditeur qui s'appelle Jean-Pierre et qui nous annonçait justement ce vote, donc on le remercie parce qu'il a été réactif lui aussi, donc 12 voix contre 10. Et il nous précise qu'il est un auditeur qui cotise. Et je suis d'autant plus heureux, cher monsieur, de lire votre message. Charles Alloncle proposait que l'on nomme désormais le patron de France Télévisions, enfin qu'il soit nommé par le président de la République. Est-ce que ça vous semble une bonne idée ou est-ce...
Ce serait moins hypocrite que le système actuel.
Oui. Ça ne change pas grand-chose, en fait. C'est clair. Au moins, c'est transparent, là. C'est
nommé
clair.
Par le président après vote du Parlement et approbation de l'ARCOM. Ça fait quand même une triple...
À mon avis, ça ne changera pas grand-chose.
En tout cas, ce qui est formidable avec ce rapport, c'est que sa publication, c'est une grande victoire. Et je pense que désormais, tous les gens qui vivent dans différents fromages peuvent se... réalise qu'ils peuvent être exposés, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, ils peuvent être exposés en place publique, leurs pratiques peuvent être exposées, et puis peut-être un jour être poursuivis, car les majorités ne sont pas éternelles.
Oui.
Les juges sont peuvent être extrêmement versatiles. Donc je pense que ça en fera réfléchir plus d'un, désormais. Alors que si le rapport avait été totalement enterré, le sentiment d'impunité et de capacité de continuer leur bidouillage dans leur coin aurait été absolument immense. Et donc voilà, c'est un formidable encouragement aussi aux lanceurs d'alerte et à tous ceux qui ont eu le courage de témoigner. Parce que là aussi, c'est très important. Si ce rapport avait été enterré, ça aurait été une terrible défaite pour tous ceux qui ont pris des risques pour qu'il existe.
Absolument. Oui. Et puis à tous ceux qui ont fait un effort.
Et là, à partir du moment où il est accessible, il y a des tas de gens qui vont travailler dessus.
Oui.
Et donc qui vont trouver d'autres choses.
Voilà.
il va être recopié, tout ça. Il va apparaître dans la presse. J'espère quand même qu'il y a des députés, des parlementaires qui vont continuer.
À chaque fois qu'on
Mais il y a tous les internautes,
qui
vont travailler dessus. Oui.
J'espère bien.
Oui, et puis à chaque fois qu'on sera mis en cause par telle ou telle personnalité médiatique, il suffira de prendre le PDF de ce rapport, de taper son nom,
absolument.
Et d'avoir remonté les pratiques de telle ou telle
individu. C'est le Epstein de l'audiovisuel.
Exactement.
Hein, c'est pas mal comme métaphore.
C'est exactement ça. Alors, on a quelques courriers d'auditeurs donc, qui reviennent sur l'affaire précédente, mais ça les préoccupe beaucoup. Donc, l'État français veut tout... veut la totale dématérialisation, digitalisation, numérisation via l'intelligence artificielle et grâce aux applications, sauf que les agents de l'État et les fichiers des redevables sont piratés. Ces fuites de données vont-elles avoir des conséquences pour l'administration d'État, probablement minimes ou non chiffrables? ce ne sont que les assujettis pardon, qui vont souffrir et que l'État va condamner allègrement, et c'est normal, c'est le progrès. Oui, c'est un peu ce qu'on disait. Et alors un auditeur, là c'est un peu périphérique, mais nous dit, pouvez-vous revenir sur la réouverture du dossier Boulin ? Vous aviez été les premiers à lancer l'affaire. Non, mais c'est vrai.
Oui, oui, c'est bien. Et mais ça, c'est notre ami Arnaud,
Arnaud Guyot-Jamin
qui avait fait une belle émission.
Absolument. Et puis surtout, qu'il y avait eu un entretien ensuite avec le témoin de l'affaire qui est mort très récemment.
Oui, j'ai appris ça aussi.
Qui a d'abord échappé à une tentative de meurtre par balle et ensuite qui a été retrouvé mort chez lui. Donc c'est effectivement.
C'est très malade, hein. Attention.
Oui, c'est. Enfin voilà. Donc c'est. Oui, ben Boulin, vous pouvez trouver toutes les informations si vous tapez Robert Boulin. Et puis le nom du témoin m'échappe, Elio, malheureusement, en tout cas, Robert Boulin, Arnaud Guyot-Jeannin, Radio Courtoisie, vous trouverez tout ce qu'il faut. Voilà, donc on en revient à notre héros gaulois, c'est Charles Alloncle. Est-ce que vous pensez qu'on peut mener d'autres commissions de ce genre maintenant ? Quelle serait la suite ? Là, je sais, nous on va essayer d'en avoir une à Radio Courtoisie, parce que nous avons été attaqués par Libération, il y a une semaine, avec un certain nombre d'autres associations, dont Polémia, dont l'Institut Iliade et quelques autres, Némésis et d'autres amis, parce que nous délivrons des reçus fiscaux. Alors Libération s'indigne parce que nous usons d'un dispositif légal, je les cite, hein, d'un dispositif légal, mais pour favoriser la haine, la méchanceté et blablabla.
Bah voyons, et eux, oui. Pas, non.
Eh bien, c'est la grande question. Ouais. Parce que eux, si, ouais. En fait.
Bah évidemment, donc c'est vraiment se foutre de...
En tout cas, sur ce rapport à Alloncle, ça prouve aussi, il faut effectivement tirer notre chapeau à son travail, mais ça prouve aussi que lorsque des députés bossent, ils peuvent abattre un boulot extraordinaire d'intérêt général. Et que donc parfois on est pris de découragement, exactement. On se dit que ça sert à rien, que voter ça ne change rien. Eh bien, le travail accompli par Charles Alloncle montre que lorsque l'on vote pour de bons élus, eh bien,
qui sont libres d'agir.
Et un minimum courageux.
Eh bien, courageux, il est possible de secouer le cocotier extrêmement efficacement.
Surtout que si je ne m'abuse, il est tendance quoi, sionististe.
UDR, sionniste. C'est ça, sionniste. Oui. C'est pour ça qu'il a eu un minimum de liberté qu'il n'aurait peut-être pas eu dans un autre groupe.
C'est bien. Non, mais évidemment. Ça, c'est bien de le dire par rapport à. C'est bien de le dire.
Pas tous d'un coup.
Non, c'est bien de le dire, mais parce que beaucoup de gens se découragent, votent même plus. Bah, comme quoi, tout de même, il y a des petites victoires.
Ah, bah oui, on peut gagner.
Ont des belles conséquences.
On peut gagner de belles batailles. Et là, cette affaire de l'audiovisuel public, on peut d'ailleurs féliciter, il n'est pas là ce soir, mais notre camarade Arthur de Vatrigan, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible, puisque Alloncle le dit lui-même, hein, il s'est intéressé à l'audiovisuel public à la suite des révélations de l'Incorrect sur le scandale Cohen-Legrand.
Ouais.
Donc là, c'est quand
merci,
même...
Merci à Hidalgo, merci Rachida Dati, merci... Non, mais je représente. Il y a plein de choses à faire. Alors, moi, je propose aussi des rapports comme ça sur la multitude d'associations fromage, où en général, on met des copains qui sont... payés par des subventions qui sont de l'argent public.
Ah bah, le Conseil économique et social et écologique désormais, ça serait intéressant.
Qu'est-ce qu'ils foutent ?
Parce que le CESE, non, Jean-Yves Le Gallou, c'est quand même...
Le CESE, c'est différent.
Ah. Si, ah bah,
c'est officiel. Non, c'est officiel, c'est pas une association.
Non, mais je pense que le vrai sujet, c'est les associations subventionnées.
C'est ça.
Parce que c'est pas du tout la même chose de vivre avec le don des particuliers, quitte à ce que les particuliers, effectivement, aient une déduction fiscale, mais ça leur coûte de l'argent.
Voilà,
c'est un choix... qui
assumer,
leur de l'argent, assumé, et dont on les remercie, c'est autre chose que d'aller faire la manche auprès de la commune, auprès du département, auprès de la région, auprès de l'État, et de cumuler toutes ces subventions, comme le font des associations comme la LICRA, SOS Racisme, LGBT, et quelques autres, LGBT, QPUS, SOS, etc. Voilà.
Oui. Et ça, il faut mettre les pieds dans la fourmilière, parce que moi, je n'ai pas envie, en tant que citoyen, que mes impôts aillent une partie de mes impôts aillent à ces associations.
Le grand sujet, effectivement, sera une commission d'enquête sur les associations et établir le bilan cumulé de ce qu'elles reçoivent. Parce que souvent, les mairies ou les départements ne laissent pas l'accès libre à leurs subventions, alors qu'ils le devraient. Et donc, c'est très difficile de savoir... Combien a-t-elle à toucher ? C'est même quasiment impossible parce qu'on ne peut pas globaliser l'ensemble.
Et c'est un des sujets d'ailleurs sur lesquels, avec Radio Courtoisie, nous commençons à travailler sur ces associations de gauche qui vont, à mon avis, bientôt comprendre qu'elles auraient mieux fait de laisser les associations de droite un peu tranquilles, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de ces associations ne déclarent pas leurs comptes. Or, à partir de 153 000 euros de ressources, on est obligé de déclarer ses comptes et de les rendre publics, ce que fait Radio Courtoisie, et ce que ne font pas un certain nombre d'assauts de gauche. Ah, et notamment, ce serait intéressant
pour les miens, malheureusement, parce que nous n'avons pas 153 000 euros.
Ça va venir, voilà.
Mais nous avons quand même un commissaire aux comptes, parce qu'il faut être sérieux.
Absolument.
Il faut faire du ciotisme au niveau national.
Mais oui.
Ah, parce que lui, ça y est, il attaque.
Il faut faire de l'allonclisme, parce que mais là, aussi, vraiment, c'est vrai que...
Non, mais je parle du point de vue des maires.
Oui, oui.
Il faut que chaque maire regarde... attentivement, où vont les
Alors,
subventions
L'extrême gauche a ouvert un compte et un site d'observatoire des mairies RN auxquelles je me suis abonné pour voir lesquelles font du bon travail et lesquelles ne font rien.
Ah, c'est intéressant ça.
Ah oui,
c'est bien. Vous oui, c'est bien.
Je pense que ceux qui seront dénoncés seront les meilleurs.
C'est un très bon outil.
Xavier Van Leerd.
Oui, je voulais dire quand même, dans l'opposition, il est possible de faire des choses contre ces subventions, puisque je crois avoir lu récemment que des élus... il me semble qu'un recours déposé par Reconquête à Lyon a permis de faire annuler une subvention de la ville de Lyon.
À
SOS Méditerranée. Donc voilà, une fois encore, lorsque les gens travaillent, ils obtiennent réellement des résultats, même en étant en situation de minorité absolue.
Absolument. D'ailleurs, SOS Méditerranée envoie des reçus fiscaux pour la défiscalisation des dons qui lui sont faits. Or, pour le coup, on peut s'interroger sur leur caractère d'intérêt général. Parce que Radio Courtoisie est d'intérêt général parce que ça participe à la diversité d'opinion, c'est un fait. Ça favorise la francophonie qui concerne, par définition, l'ensemble des Français et des francophones. On a des émissions culturelles nombreuses, mais SOS Méditerranée n'est pas forcément d'intérêt général parce que elle se concentre précisément sur des intérêts particuliers qui sont la défense des immigrés illégaux. Et ont-ils le droit de se revendiquer de l'intérêt général? C'est loin d'être sûr. Et donc on va travailler là-dessus.
Allez, plaider ça au Conseil d'État.
On va essayer.
C'est le camp du bien, Pierre-Alexandre.
Si Charles Laloncle s'était dit ça en commençant son
Vous avez raison, vous avez raison.
Et il ne serait pas allé au bout et ça n'aurait pas été voté.
On viendra avec vous.
Merci. Alors, il nous reste quelques minutes. Il y avait une autre bonne nouvelle. Essayons de parler de bonnes nouvelles, parce que quand il y en a, ça fait quand même du bien. C'est l'immigration, donc ce protocole pour éjecter les clandestins.
J'ai cru que vous alliez parler de Boualem Sansal qui s'en va.
C'est corrélé. Mais lui, il s'en va tout seul. Et encore une fois, malheureusement, si
Il y en a un qui doit rester,
s'il y en avait d'autres, voilà, ça serait peut-être plus marrant. Donc, c'est l'accord Italie-Albanie sur l'immigration qui a été validé donc par la justice européenne. C'est un dispositif qui date de 2023. On est en 2026. Bon, ça a quand même mis 3 ans, mais qui prévoyait que les immigrés en demande d'asile, pas forcément illégaux. Légaux ou illégaux, dont la demande d'asile était en cours, ne soient plus autorisés à rester sur le sol italien, mais soient envoyés en Albanie.
C'était pas que pour les Albanais, c'était
C'est ce qu'on appelle un pays tiers. Donc, c'est-à-dire que les immigrés du Nigeria se retrouvent en Albanie le temps que leur dossier soit traité de manière...
Un Français, pareil.
Pareil, j'imagine. Enfin non, nous, on est Européens, donc ça va.
Je sais pas.
Mais c'est donc... Un principe. Les Anglais avaient fait la même chose avec le Rwanda.
Oui, mais ça a été cassé par la Haute Cour de justice britannique.
Absolument. Eh bien là, les juges italiens avaient d'abord interdit cela, et les immigrés en situation de demande d'asile, donc légale ou illégale, donc y compris les illégaux, avaient été repris de l'Albanie et remis en Italie par cette décision de justice italienne. Ce qui est quand même...
L'Albanie serait la salle d'attente.
Exactement.
Donc,
la Cour européenne de justice, qui est la plus grande,
a entériné ça, d'où les 3 ans.
A validé, effectivement. Ça, c'est quand même intéressant.
Et quel est l'intérêt de l'Albanie de faire ça, alors?
À mon avis, ils doivent avoir des subventions, ils doivent avoir des intérêts.
C'est un accord diplomatique.
Ça doit être financé, bien sûr.
Oui, donc, ça coûte quand même.
Qu'est-ce
qu'on ferait pas pour avoir de bons invités? Quand on n'aime pas, on ne compte pas non plus.
Là, on peut payer. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça vous inspire. Jean-Yves Le Guélou, est-ce que c'est un pas vers la remigration?
Oui, un tout petit pas. Parce que je pense quand même que même s'il y a de temps en temps des décisions de justice favorables, globalement, Ce sont des dispositifs qui paralysent. D'ailleurs, au cas particulier, ça a quand même réussi à paralyser pendant 3 ans.
Ouais.
Mais il faut noter effectivement cette donnée positive, qui d'ailleurs correspond à un vote au Parlement européen sur un sujet connexe, sur la directive retour, qui est relativement restrictive par rapport aux dispositifs antérieurs, et notamment qui envisage de cette possibilité-là de manière plus générale. Donc c'est assez, ça fait deux mesures qui vont
plutôt dans le bon sens.
Plutôt dans le sens d'un tout petit début de prise de conscience.
Ça fait jurisprudence, tant mieux, mais ça souligne aussi, encore une fois, le pouvoir de juges supranationaux.
Ah, oui, mais c'est honnêtement, qu'ils soient supranationaux, qu'ils soient entre nous, que le juge, ça soit la Cour de justice européenne ou la Haute Cour de justice britannique, le résultat est rigoureusement le même.
On est d'accord.
Donc on est beaucoup plus dans une logique de pouvoir judiciaire que dans une logique de dire « Ah, c'est dans tel État ou dans tel État ». Franchement, c'est un peu secondaire.
A fortiori, je veux dire, c'est vraiment le
pouvoir des juges. Dans le système, oui.
Voilà, alors que c'est totalement antidémocratique.
Alexis Poulain, est-ce que vous condamnez cette décision d'un juge européen qui vient s'interférer dans les affaires de nos amis italiens? Ou est-ce que vous vous dites que pour cette fois, ça ira?
C'est toujours le cas. Non, il ne faut pas laisser passer. En fait, à partir du moment où on valide une institution européenne, tout suit, quoi. Donc, c'est un peu le problème. Et c'est quand même, globalement, le pouvoir des juges qui, in fine, assoit ce pouvoir européen des traités. Donc, voilà.
Donc, vous êtes Mossad.
Non. Ouais, complètement.
c'est une goutte de bonne eau dans un océan de maléfices.
Bon. Xavier Van Lier, est-ce que vous êtes plus jouasse?
Ça repart dans l'autre sens, de façon très timide, mais c'est mieux que ça reparte timidement dans l'autre sens, plutôt que ça s'aggrave sans cesse. Et je pense qu'il y a une sorte de changement de climat, en quelque sorte. À la fois la Cour de justice européenne, le vote au Parlement européen, on peut constater aussi que le nombre de pays dont les gouvernements, au moins, s'affichent ou souhaitent être plus restrictifs en matière d'immigration, ne cesse de croître sur le continent. Et donc voilà, on est encore évidemment très loin du compte, mais je pense que en France, on a quand même une vision déformée parce qu'on fait partie des pires en quelque sorte. On fait partie des pires et donc on ne saisit pas encore tout à fait à quel point les choses malgré tout bougent. Voilà, donc c'est. Il faut des signes d'espoir, si vous voulez. On peut pas que dire que tout est foutu parce que sinon.
Oui, c'est clair. C'est clair.
Reste le puits du fou.
Jean-Yves Le Gallou.
C'est ça, oui, pour rassurer notre ami Poulain, d'ailleurs, quant à la souveraineté des États, le gouvernement français fait savoir qu'il ne prendrait absolument pas en compte la nouvelle directive européenne plus rigoureuse sur le contrôle des frontières extérieures.
Ah, voilà. C'est bien, il faut résister.
Donc, un acte de souverainisme.
On retrouve la bonne jurisprudence française.
Bon, écoutez, il nous reste que 2 minutes, peut-être un mot sur l'affaire Sansal, si ça inspire quelque chose à l'un d'entre vous. Donc, est-ce que Sansal a eu raison de dire qu'il quittait la France? Pourquoi le fait-il? Est-ce que le choix de la Belgique, s'il veut échapper aux accusations de la gauche et de l'extrême-gauche, est le bon choix stratégique? Pas certain.
Je ne sais pas, mais malheureusement, le cas Sansal est un cas particulier, puisqu'il y a chaque année un solde net de 100 000 Français qui quittent le territoire français, souvent pour des raisons soit de sécurité, soit des raisons économiques, soit des raisons fiscales. Et donc, Sansal s'inscrit dans ce mouvement général, qui est un mouvement d'appauvrissement de notre pays. Et quand on fait le bilan, effectivement, quand on raisonne, on dit qu'il rentre 500 000 immigrés par an, il faudrait aussi ajouter qu'il sort 100 000 Français par an. Et plutôt dans les catégories les plus dynamiques et les plus actives.
Xavier Vernier, dans 10 secondes authentiques.
Il a bien de la chance, Boulem Sansal, d'avoir un plan B. Nous n'avons pas cette chance-là, donc il va falloir se battre sur notre propre territoire pour le conserver.
Bon, écoutez, ça rejoint un peu notre introduction avec François Bousquet et le thème habituel de nos émissions.
Et on voit que c'est toujours la même coterie qui n'aiment pas ceux qui défendent la France.
Oui, parce que là, on ne peut pas accuser quand même Boualem Sansal d'être un raciste skinhead suprémaciste blanc. Ce n'est pas tout à fait le profil. Bon, merci chers amis, merci Charles-Henri Deslois, Xavier Van Lierde, merci Alexis Poulain, merci Jean-Yves Le Gallou, merci Claudia aux commandes. On vous laisse avec Thierry Lenz et son invité dans 2 minutes. Et quant à nous, vous retrouvez demain Richard de Sèze et votre serviteur lundi prochain. À bientôt.
Ça suffit maintenant.